Alors, elle se raccroche à tous les interdits, ceux que posent la loi, la bonne éducation, le respect des serments du mariage, le sens du ridicule ou la raison. Au moment où elle comprend qu'elle a besoin de faire appel à ses prescriptions, elle comprend qu'il est trop tard, que c'est fichu, qu'elle est allée trop loin, qu'elle ne va pas savoir résister au garnement. Elle cède. Ce faisant, elle commet la plus grande des transgressions. Une transgression inconcevable au sens premier du terme. Elle n'aurait pas dû la concevoir. Elle se situe au-delà de son imagination, de son entendement. Un manquement à ses engagements. Une faute. Plus tard, elle dira « c'était plus fort que moi ». Les mêmes mots que ceux employés par Étienne tandis qu'il marchait sur la pierre glissante des remparts d'Angoulême. Elle est saisie par la panique. Lui, il exulte. Il a conquis sa promise. Ça ne fait pas de doute dans son esprit que cette femme sera, un jour, sa femme. Il sait cependant tout ce que ce basculement représente pour elle, toute la terreur intime qu'elle charrie, mais il est tout à son bonheur, un bonheur inédit. Alors débute une liaison clandestine. Il faut élaborer des stratagèmes, trouver des subterfuges, dégoter des planques, fabriquer des mensonges, fournir des alibis. Ils volent des heures, filent en bagnole vers l'océan, reviennent rapidement afin que personne ne remarque leur absence, se donnent des rendez-vous dans des cafés à l'écart du centre où nul ne les connaît, se rejoignent dans des hôtels où ils prennent soin d'arriver et de repartir séparément. Elle ne va jamais chez lui, il ne se rend jamais chez elle. Comme si ce sacrilège-là n'était pas acceptable, comme si dans la transgression, quelque chose pouvait encore résister. Il leur faut faire attention en permanence à leurs gestes, à leurs regards, ne jamais se laisser aller, ne jamais baisser la garde. Quand ils se tiennent dans la même pièce, nul ne doit les soupçonner. Ils inventent un langage codé. Ils ne peuvent faire confiance à personne, tout doit demeurer secret. Les autres, y compris les proches, sont tous des adversaires en puissance. Et pourtant, ce serait si bien de pouvoir partager avec quelques-uns. C'est si frustrant de garder l'allégresse pour soi. Une telle ascèse est épuisante, bien sûr, et les consume. Mais il y a entre, curieusement, de la jubilation aussi. Parce que ça n'appartient qu'à eux, parce que ça ne regarde qu'eux, parce que ça fabrique une intimité hors du commun, parce que ça procure le frisson du danger, et parce que ben c'est de l'amour, voilà. Pour lui, c'est réellement la première fois. Après tout, il sort à peine de la tumultueuse période de l'adolescence. Certes, il a eu des inclinations, des élans, des désirs, toujours pour des filles de son âge, mais tout s'est fracassé. L'explication est fort simple. Il fallait que ça compte pour qu'il se lance. Il est ainsi, bêtement romantique. Cela encore, il le tient de son grand-père. L'intensité ou rien, tel est le viatatique de l'ancien marin. Et qu'on ne s'y trompe pas, pour elle aussi, d'une certaine manière, c'est la première fois. La première fois qu'elle aime vraiment, qu'elle est emportée, qu'elle ressent une extrême vivacité. Elle a connu la tendresse, une compagnie rassurante, une présence familière. Elle n'a jamais connu la fougue, jamais la ferveur. Et pour eux deux, au fond, il s'agit d'une émancipation, d'un affranchissement. Pour eux deux, il s'agit également d'une occasion formidable, inespérée, de construire leur propre identité, d'exister à part entière, de conquérir leur liberté. Il est en avance, elle est très en retard. Il faut reconnaître que, paradoxalement, il est le plus vieux des deux. Il a la détermination, la résolution, l'aisance, la ténacité, le sang-froid que procure l'âge souvent. De son côté, elle, elle est flottante, bousculée, affolée, comme on l'est dans l'adolescence par exemple. C'est lui qui l'entraîne, elle qui suit, lui qui surprend, elle qui s'étonne. Cependant, la raison qu'on pourrait nommer aussi discernement au bon sens, la raison reste de son côté à elle. Elle demeure persuadée que tout cela est pure folie. Et elle songe que ça ne peut pas durer. Elle dit « Un jour, tu cesseras de m'aimer, c'est obligé. Il lui objecte que son discours ne relève pas de la rationalité. Elle actionne juste un mécanisme d'autodéfense. Et puis, un jour, parce que le bonheur des autres a toujours quelque chose d'insupportable, la rumeur surgit, celle de leur liaison. Insidieuse d'abord, ce ne sont que des allusions, des murmures, des insinuations, des paroles désobligeantes, sifflées entre les lèvres au loin. Les gens ne sont pas sûrs, pas affirmatifs, ils ont besoin de vérifier, ils lancent des piques pour savoir comment les intéressés réagissent, ils foudroient du regard pour provoquer leur malaise. Cette rumeur, même étouffée, les intéressés l'entendent. Elle parvient à leurs oreilles, mais d'abord, ils décident de ne pas en tenir compte. Y répondre, ce serait apporter du crédit. L'indifférence est la plus efficace des dénégations. Seulement voilà, cette satanée rumeur prend de l'ampleur. Les gens raffolent des ragots, du sensationnel, et surtout, elle se nourrit d'anecdotes toutes fausses, d'exemples tous inventés, d'épisodes tous fantasmés. On les aurait vus s'embrassant sous un porche, se tenant la main dans la rue, s'échangeant des œillades langoureuses après une séance de ciné-club. Elle aurait quitté le domicile conjugal, il aurait une chambre en ville. La rumeur les cerne, se rapproche, les assiège. Ils ne sauront jamais d'où elle est partie. Ils ne sauront jamais ce qui a pu les trahir, mais désormais, les voilà sommés de rendre des comptes. Ils décident de ne plus se voir pendant quelque temps, mais rien n'y fait. Ils devinent qu'il est déjà trop tard, et ils sont les mieux placés pour savoir que même détestable, même exagérée, la rumeur contient une vérité fondamentale. C'est Claire qui finit par céder. Elle dit « Je dois parler à mes enfants. Je le leur dois. Ils ne peuvent pas continuer à vivre sous les persiflages, les quolibets. » Elle sait qu'ils ont été pris à partie à la sortie du collège, que leurs camarades leur répètent ce que leur se disent les parents. Étienne se rend aux arguments de la mère blessée, inquiète. Et puis, surtout, il a compris que céder, c'est-à-dire avouer, est la preuve d'amour la plus éclatante. Car la résolution de Claire est faite. Si elle se prépare à avouer, elle n'entend pas renoncer. Pas du tout. Quand la situation est exposée, c'est une vanne qui s'ouvre. C'est un déferlement qui se produit. Il y a d'abord la stupéfaction, puis l'incompréhension, puis le mépris, puis le dégoût, puis la haine. Il y aura aussi, ici ou là, des mots vulgaires, des insultes obscènes, des attaques ordurières, d'une bassesse qui les rend inoubliables, inoubliables. Le scandale est gigantesque. Les scandales sont forcément gigantesques dans les milieux étriqués. Le bannissement presque immédiat, pavlovien. Le mari de Claire est abasourdi et furieux. Les enfants bouleversés, les allées de Tourny sous le choc. Cela, elle s'y attendait. Et à certains égards, elle l'admet. Elle peut juste tenter d'arrondir les angles, sans grand espoir néanmoins, compter sur les vertus du temps. On assure qu'il guérit de tout. Mais même les amis, les proches, les collègues sont consternés. Ils hurlent à l'hérésie, choisissent l'excommunication. Elle perd tout le monde, sans exception. Elle dira « C'est comme s'ils m'avaient tous tourné le dos, d'un coup. » Étienne affronte à peu près le même rejet, viscéral. Mais à lui, on trouve une excuse, celle de son âge, quand pour Claire, il s'agit d'une circonstance aggravante. Les parents du gamin exige une rupture immédiate avec la fautive, la pécheresse, et l'envoie illico terminer ses études à Toulouse. Ils ont encore tout pour voir sur lui, ils peuvent le déplacer comme bon leur semble, comme on le fait avec un meuble. Plus tard, Étienne aura ces mots. On a été mis au banc, on a été des parias. Il ne pardonnera jamais. Il pourrait vaciller, même rendre les armes. Face à une telle violence, à un tel dépeuplement, on le comprendrait facilement. Il pourrait se dire égoïstement « J'ai une vie à vivre, à quoi bon l'hypothéquer d'emblée ?» Cependant, l'épreuve les confronte dans leur certitude. Ils doivent être ensemble. Les crachats, les préjugés, la bien-pensance des bourgeois, les leçons de morale, des assis, les désertions, les menaces n'y changeront rien. la perspective d'une existence entièrement chamboulée, d'un destin à inventer n'y changera rien. Ils doivent rester ensemble. En attendant, ils s'aiment à distance, se téléphonent chaque jour, chaque nuit, des heures durant, parfois jusqu'à l'épuisement, jusqu'au petit matin. Lui poursuit ses études brillantes avec toujours le désir d'être le premier pour en remontrer aux autres, pour leur prouver qu'ils ont eu tort de le mépriser. Elle met ses affaires en ordre avec une résolution qui l'impressionne elle-même. Elle quitte son mari, divorce, rassure ses enfants, remet en place ses parents, emménage dans un nouvel appartement loin des allées de Tourny et de la place des Quinconces, se fait de nouveaux amis et continue d'animer le ciné-club, de proposer des films de Douglas Sirk. Ses nouveaux élèves ont parfois entendu parler de son histoire et la plupart s'en fichent. Que je vous dise encore, 10 ans plus tard, alors que la tempête n'est plus qu'un lointain souvenir, il se marie. À cette occasion, Étienne précise, « En nous mariant, nous ne régularisons rien parce qu'il n'y avait rien à régulariser. Nous ne rentrons pas dans le rang, nous tenons juste une promesse que nous nous sommes faite et à laquelle nous étions les seuls à croire. Que je vous dise enfin, au cas où cette histoire vous en aurait rappelé une autre, et afin que vous soyez assurés que toute ressemblance serait purement fortuite, il n'est pas devenu président de la République, elle n'est pas devenue première dame, mais ils ont tout de même vécu très heureux. » Fin de ces belles histoires, sans préjugés.